C'est Sheila Fournier qui est avec nous pour ce bulletin d'information locale et régionale et on débute en parlant des pensionnats autochtones. Le bilan continue de s'alourdir.
Les données officielles ne font état d'aucun enfant qui serait décédé au pensionnat de Saint-Marc-de-Figuerie, situé près d'Amos. Cependant, des éléments nouveaux, comme des photographies et des archives du Centre national pour la vérité et la réconciliation, donnent à penser que des enfants autochtones y seraient bel et bien décédés. Ces récentes découvertes font écho aux propos tenus par Lucien Wabanonik, un survivant du pensionnat autochtone de Saint-Marc-de-Figuerie, à l'été 2021, dans les jours qui ont suivi la découverte de 215 corps d'enfants à l'ancien pensionnat de Kamloops, situé dans l'Ouest canadien. M. Wabanonik avait déclaré avoir assisté à une scène marquante qu'il avait enfouie dans ses souvenirs jusqu'à ce jour. Voici ce qu'il avait déclaré lors de son passage à l'émission d'affaires publiques L'Heure juste.
Je peux vous dire qu'il s'est passé des choses-là. C'est pas évident à parler, moi, vous dire, pour être honnête avec vous, là, mais j'ai pas été surpris de ça, qu'il y avait des choses qui se passaient, parce que moi, étant jeune, j'ai déjà vu des sœurs et des prêtres là, amener une petite boîte là, et puis enterrer ça quelque part, mais je m'en souvenais plus. J'avais 5 ou 6 ans à l'âge là, à l'époque là. Donc des événements et des souvenirs qui sont très difficiles à vivre. Là.
Les nouvelles données font état de 3 enfants qui seraient morts au pensionnat de Saint-Marc-de-Figuerie. Jusqu'à présent, 18 enfants sont décédés dans les pensionnats du Québec. Cependant, ce chiffre serait plus élevé. 18 autres enfants y auraient perdu la vie selon un bilan exhaustif réalisé par l'équipe d'enquête de Radio-Canada. Le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, Yann Lafrenière, a dit s'attendre à ce que le bilan continue de s'alourdir au fil des recherches.
Des fusions de municipalités dans la vallée de la Gatineau devraient être considérées selon un ancien préfet de la MRC, vallée de la Gatineau.
La région de la vallée de la Gatineau devrait considérer fusionner certaines municipalités dans l'avenir afin d'augmenter sa population et faciliter l'obtention de services. Michel Merlot, homme d'affaires et ancien préfet de la MRCVG, croit que ce processus donnerait un plus grand pouvoir d'attraction et de rétention à la région. Il explique son raisonnement.
Maniwaki. Ma dernière vérification, 3737. Une fois fusionné, par exemple, avec Eagan, Deliage, ouais, peut-être avec Bois-Franc et Sainte-Thérèse, on parlerait d'une ville de plus ou moins 5500 okay. population. Ça ferait en sorte qu'on aurait une masse critique plus importante qui permettrait de se doter de services qu'on n'a pas pour être plus heureux dans la région, plus complet dans la région.
Le processus menant à de telles fusions entre municipalités de la MRC devrait faire l'objet de consultations auprès de la population et ultimement d'un consensus, toujours selon M. Merlot.
Alors, il est plus que temps qu'on change notre façon de faire de la politique au niveau local et régional. La balle est dans notre camp à nous. La seule contribution du gouvernement supérieur, qui est souhaitée du moins par moi, c'est de permettre aux municipalités qui voudraient se fusionner qu'on leur permette de le faire.
L'idée n'est pas nouvelle et certaines municipalités ont déjà procédé à des fusions ailleurs en province, notamment pour limiter les coûts et augmenter les ressources disponibles.
Et en terminant, la municipalité de Deléage s'inquiète du ralentissement du processus pour la création de Gigaville.
Ces derniers temps, les échanges avec les promoteurs de Gigaville se font plus rares, a fait savoir la mairesse de Deléage, Anne Potvin. C'est ce qu'elle a répondu à une citoyenne venue s'informer sur les suites du projet lors de la période de questions du conseil municipal du 6 décembre dernier. La mairesse partage ses doutes sur l'avenir du projet.
On commence à douter du projet parce qu'au début, les investisseurs sont pressés. Vraiment, ils voulaient s'installer vite pour pouvoir fonctionner. Mais là, maintenant, j'ai l'impression qu'ils ont ralenti la cadence. Puis ce n'est pas ce qu'on est habitué avec eux autres. Fait que c'est pour ça que, je vous dirais, le doute s'installe dans notre tête.
Récemment, les promoteurs de Gigaville avaient pris la décision de ne pas compter sur Hydro-Québec pour l'alimentation électrique de leurs installations, qui comprennent la production de crypto-monnaies dans le contexte où la société d'État limite la quantité d'énergie disponible pour ce secteur d'activité. Les promoteurs avaient donc opté pour une alimentation autosuffisante. La mairesse se demande d'ailleurs si ce changement de plan pourrait être à l'origine des délais. De plus, la municipalité n'a encore reçu aucune demande de permis et attend que les promoteurs lui fournissent certains documents. On l'écoute.
On attend des documents officiels pour voir comment ils vont s'organiser vraiment pour que le son soit en bas des décibels octroyés légal par le gouvernement. Il faut vraiment que le son soit en bas parce qu'on ne veut pas déranger nos citoyens. Alors, on lui a demandé vraiment sur papier, vraiment écrit pour pouvoir prouver à nos citoyens, pas juste nous dire à nous.
Malgré ce changement de rythme inhabituel dans le processus, Anne Poitevin espère que ces contretemps n'empêcheront pas le projet Gigaville de se réaliser.
Et on a quelques trucs à surveiller à l'agenda pour aujourd'hui, mais également quelques trucs aussi pour en fin de semaine.
Oui, ben en fait, c'est plutôt, je te dirais que c'est plutôt pour la fin de semaine qu'on se concentre. À Grand Remous, c'est la fête des enfants à la salle Jean-Guy-Prévost. Ça aura lieu demain entre 13h et 16h. Une inscription était par contre demandée. Municipalité de Casabazois, ben là aussi, on souligne les fêtes de Noël avec la parade de lumière, des fêtes suivies d'activités au centre communautaire, illumination du sapin à compter de 19h30 et soirée karaoké par la suite. Et on va aussi demander aux gens d'apporter une denrée non périssable pour garnir, certains paniers donnés, dans le fond, à des organismes qui s'occupent de nourrir les personnes en précarité. Et puis, toutes les activités vont s'ébranler à compter de 17h45 dans le stationnement de l'église Notre-Dame du Mont-Carmel. Il y a également Messine qui nous propose le Noël des enfants avec un magicien, avec un dîner également. Ce sera à la salle Régent Lafrenière dès 10h demain. Il y aura Noël des enfants à Sainte-Thérèse entre 9h et midi. Là encore, une inscription est requise. Il y aura un tournoi. Tournoi branchot de hockey pour les 9-12. En fait, c'est les Atomes et les Piouis. Et ça va se passer, bien sûr, au Centre sportif Gino Hodgic entre le 10 et le 12 décembre. Et finalement, au niveau culturel, on a Andy de Washi Band qui va lancer son disque à la salle communautaire de Kitsigandibi demain à 19h. Attention, c'est 18 ans et plus parce qu'il y aura de l'alcool qui sera servi.
Excellent. Merci beaucoup, Sheila. De ton côté, un gros week-end en vue?
Ben oui, on va continuer de faire un petit peu d'emballage. Et puis tenter, je le disais, tant bien que mal, de faire quelques petites décorations de Noël pour faire genre.
Oui. Je pense qu'on est dans le même bateau. Là. Faut décorer.
Il faut.
On est rendu là.
La pression est là.
Oui. Super. Hey, bonne fin de semaine, Sheila.
Merci toi aussi.